Merci d'être là, merci d'être à l'écoute de l'émission Dans Jase, merci d'interagir via le 418-971-1021. Je vous rappelle également, vous avez un haut-parleur intelligent à la maison. Vous dites écoutez BLVD 102.1 et on apparaît dans vos oreilles. C'est aussi simple que ça. Écoutez BLVD 102.1. Je vous ai dit en entrée d'émission que j'étais un gros fan de la Coupe du monde de soccer. Ben Nate, imagine-toi donc, OK? C'est l'Espagne contre le Cap... Là, attends, on entend quoi? OK, j'ai arrêté ça. C'est l'Espagne contre le Cap Vert, OK? Mm-hmm. L'Espagne, déjà champion mondial. Le Cap Vert, première participation à vie à la Coupe du monde de soccer. OK, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que le Cap Vert? Eh bien, c'est un pays d'Afrique. C'est une dizaine d'îles ensemble, des îles volcaniques, dans l'État insulaire d'Afrique de l'Ouest. Ça a une population totale, écoute bien ça, de 524 877 habitants. Je rappelle, on est près de 9 millions au Québec.
Pas là, hein?
Eux autres sont 524 000. Là, ils participent pour la première fois à la Coupe du monde. Ils jouent contre des anciens champions mondiaux, qui est l'Espagne. On est à la 80e minute. À 10 minutes de la fin du match. Il y a quelques minutes supplémentaires à la fin du match. Ouais. C'est 0-0.
Encore.
Ah, le Cap Vert est en train de toffer l'Espagne.
T'imagines-tu?
J'adore les événements sportifs.
Mais ça, c'est
de
des belles histoires,
ouais.
Ça, ah, c'est oui. C'est vraiment des belles histoires, ça, ce genre d'histoire-là.
Belgique et Égypte à 15h à 18h. C'est l'Arabie Saoudite contre l'Uruguay. Je vais prendre pour l'Uruguay. On l'a parlé
ben
en
oui.
début de show. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez réécouter sur BLVD.fr.
Nouvelle terre d'accueil pour Jeff.
Et l'Iran contre la Nouvelle-Zélande. C'est l'horaire d'aujourd'hui. On va parler justement de la Coupe du monde avec Alex Laramé dans quelques instants. Mais Nate, avant, fais-nous un petit tour de l'actualité, s'il vous plaît.
Certainement, avec grand plaisir. Ottawa qui affirme que la crise des opioïdes est loin d'être terminée malgré certains progrès observés en 2025. On peut lire ça du côté de Radio-Canada. Le nombre de décès liés aux opioïdes qui a diminué de 23%. Les hospitalisations qui ont reculé aussi de 12% au pays. Les autorités attribuent cette amélioration notamment à l'utilisation accrue de naloxone. Mm-hmm. Malgré tout, plus de 5600 personnes sont décédées l'an dernier d'une intoxication. Apparemment, liés aux opioïdes, soit environ 15 décès par jour au Canada.
Nate, savais-tu quoi? Non. On a de quoi être fiers du Cap-Vert parce qu'on m'apprend par texto 418-971-101 que le Cap-Vert, c'est aussi une municipalité aux îles de la Madeleine.
OK, fait qu'on
fait
peut...
comme nos cousins.
Fait que les gens du Cap-Vert peuvent se dire qu'ils ont une équipe là-bas à la Coupe du monde.
C'est ça, c'est comme nos cousins. Charles-Étienne, un grand connaisseur de soccer qui nous écrit au Super Texto, c'est comme si c'était 0-0 en fin de troisième période au hockey entre le Canada et le Gabon.
OK.
Fait que tu vois comment c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer sous nos yeux. C'est pour ça que j'adore ces compétitions sportives-là. Il y a toujours de ces histoires-là
c'est
à
ça.
Voir qu'à l'avant.
Il y a toujours une histoire à raconter,
tout
effectivement.
Le temps.
Sinon, j'irai avec le Québec qui veut encadrer l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les milieux de travail. C'est sorti un petit peu plus tôt, ça. Ce matin, c'est le ministre du Travail, Jean Boulet, qui dévoile un guide d'implantation qui insiste sur la transparence et le maintien du jugement humain dans les décisions. Le document met aussi en lumière les risques liés à la surveillance des employés par l'intelligence artificielle. Syndicats et experts qui accueillent favorablement l'initiative, estimant qu'elle permettra aux entreprises d'adopter ces nouvelles technologies tout en protégeant les travailleurs. Rien de limitant dans ce document-là, c'est ce qu'on peut lire, mais qui va servir de base davantage pour justement les différentes entreprises. Et on en parlera un petit peu plus tard de ça, mais le projet de tramway de Québec qui franchit une nouvelle étape, c'est la CDPQ Infra qui a confié au consortium Certitram le rôle de certificateur indépendant du projet Tramcité. Son mandat sera de surveiller l'avancement des travaux et de vérifier le respect des coûts, des échéanciers et de la conception dirigée par la firme française Certifère. Le consortium accompagnera le projet jusqu'à 2 ans. Après sa mise en service prévue en 2033, Certifère agit déjà comme évaluateur indépendant de la sécurité du futur tramway. C'est coutume dans ce genre de gros projet-là, évidemment, d'avoir des chiens de garde, comme on peut lire là, dans différents médias ce matin. Mais c'est ça, on en reparlera un petit peu plus tard parce que j'ai communiqué avec le projet de tramway, donc bureau du projet de tramway, CDPQ Infra, pour avoir quelqu'un en entrevue pour nous expliquer un petit peu c'est quoi le mandat exactement parce que c'est sorti ce matin en nous disant « ça rentre dans le budget ». De 7,6 milliards. Donc, c'était déjà prévu de cette façon-là. Puis, on n'accorde pas d'entrevue. Puis là, c'est là que j'ai pas eu de réponse parce que j'ai demandé pourquoi on n'accorde pas d'entrevue. T'sais, pourquoi juste répondre à nos questions de qu'est-ce que ce groupe-là va faire, ce consortium-là va faire exactement?
Comment on va s'assurer de rentrer dans les coûts? Parce que c'est une grosse préoccupation chez les gens et avec raison.
Parce que je me souviens pas, à moins que tu me rafraîchisses la mémoire, je sais qu'on avait donné le mandat lors de la construction du centre Vidéotron, maintenant on l'appelle comme ça, mais de l'amphithéâtre ici à Québec, mais c'était à l'interne.
Oui.
T'sais, ça restait dans la ville de Québec quand même.
C'était Régis qui gérait le budget en bout de ligne.
On gérait le budget. Je sais qu'il y avait un monsieur Rochette à l'époque aussi qui était le chef, la tête dirigeante de tout ça, qui s'assurait qu'on rentrait dans le budget de 450 millions à l'époque. Imaginez-vous, c'est il y a 10 ans à peine. Ça. 450 millions, on ne fait plus rien avec ça aujourd'hui. C'est quand même fou quand on y pense deux secondes. Mais c'était quand même un gros projet aussi.
Donc,
est-ce qu'on avait des chiens de garde? Est-ce qu'on avait un consortium comme ça, externe aussi, pour l'amphithéâtre? Je ne sais pas, je ne m'en souviens pas, du moins que c'était sorti dans les
Sébastien
médias.
Sébastien qui mentionne par texto combien nous coûte de millions notre chien de garde. Ben, c'est justement ça la question qu'on voulait savoir parce que c'est des millions qui vont surveiller des gestionnaires qui vont gagner des centaines de millions de dollars en bout de ligne qu'on les met tous ensemble. Fait que il me semble que ça fait pas mal de millions pour arriver à 7,6 millions.
Mais juste qu'on puisse avoir plus de réponses à nos questions qu'une ligne de communication.
Tellement.
C'est ça. Bref, on en reparlera un petit peu plus tard, plus en détail.
Cité du côté du dossier du tramway hier à Vegas. Stepping up is Dad. The perfect storm and the 20th anniversary of their first title. Once again, the Carolina Hurricanes are Stanley Cup champions. Vingt ans après leur première conquête de la Coupe Stanley, il était capitaine des Hurricanes à ce moment-là. Rod Brind'Amour qui mène son équipe comme entraîneur à la Coupe Stanley. Depuis 8 ans, les Hurricanes de la Caroline, c'est l'équipe qui a le plus de victoires en saison régulière et série. Ça a repris ce 8 ans-là pour gagner la Coupe Stanley. Alex Laramain, faut regarder ça puis se dire, va falloir être patient à Montréal parce que c'est pas toujours gagné d'avance une Coupe Stanley.
Ben non, tu sais, les Hurricanes, ils ont vraiment passé par le processus de toutes les équipes pratiquement qui gagnent la Coupe Stanley. Tu sais, les Panthers de la Floride, combien d'années on perdait en première ronde contre Tampa Bay? C'était les années du Lightning, puis ensuite, ça a été leur tour. Même chose du côté de l'Avalanche du Colorado, beaucoup d'années de pain noir avec Nathan MacKinnon avant de finalement mettre la main sur la Coupe. Puis il faut se le dire, là, les Hurricanes, je pense que c'était leur année. Là. Ils ont perdu 3 matchs au total dans tout le parcours éliminatoire. Ah. C'est le parcours avec le moins de défaites là, depuis, je pense, c'était les Kings. Je me souviens plus, une des deux années qui ont gagné la Coupe là, dans les années 2010. Il y avait eu 4 défaites de leur côté. Là, c'est 3 pour les Hurricanes. Ils ont été dominants, il faut le dire. Ils ont passé à travers les deux clubs en première ronde. Ils ont passé dessus aussi du Canadien. En troisième ronde, puis contre Vegas. Finalement, ils ont échappé 2 matchs, mais je pense que tout le monde, après le 5e match, s'attendait à ce que ça se finisse dans le 6e. Là, c'est une équipe, très belle équipe, qui mérite amplement de gagner. Là.
On a trippé sur les enfants de Matthew Stafford, ces 4 jeunes filles qui l'ont questionné après qu'il ait gagné le titre de joueur le plus utile de la NFL. Ben, hier, c'est une autre jeune fille qui a volé la vedette, la jeune fille de Jordan Stahl. On l'écoute.
You guys have anything to say?
Yeah, I have
a question.
Elle a une question, elle, pour son père.
I thought you called us crew.
Crew, yeah.
And we're going to go way back to the first game in the first season. Why did you punch that guy? Questions that need to be answered, guys.
Yeah. I'll answer that later, yeah.
Right. Je vais répondre plus tard pourquoi au premier match des séries, à la première seconde, j'ai jeté les gants puis j'ai décidé de sacrer une volée à Brady Tkachuk.
C'est bien dit.
Ah oui, non, c'était de toute beauté. Ah, c'est simple, Jordan Stahl l'a fait parce que Brady Tkachuk, ben, c'est un joueur, on le sait, très intense, très intimidateur sur une patinoire. Puis il a montré à son équipe, cette année, c'est par là qu'on s'en va. Ça a fonctionné. Il remporte le Conn Smythe malgré les statistiques offensives, mis à part la finale qui n'était pas extraordinaire. Peut-être que c'est un vote pour l'ensemble de l'œuvre. J'ai l'impression que vous en pensez, gars.
Ah ouais, totalement. Tu sais, je regardais les votes. Il y a seulement 4 journalistes là, qui n'ont pas voté pour Jordan Stahl comme première étoile. Ça semblait assez unanime. Puis tu sais, oui, c'est pas nécessairement le meilleur pointeur. Il y aurait eu Frederick Anderson qui aurait eu une chance de mettre la main sur le trophée s'il si n'avait pas été enlevé des matchs durant la série finale. Mais est-ce qu'il y a un autre joueur qui s'est tant illustré du côté des Hurricanes? C'est vraiment le concept d'équipe hein, du côté des Hurricanes avec justement Rod Brind'Amour comme entraîneur-chef. Puis c'est ça qu'on a vu à la fin, c'est qu'il n'y avait pas un joueur comme Vegas. Que, si Vegas avait remporté la Coupe, c'est sûr que c'était Marner qui allait remporter le Conn Smythe. Donc, ouais, moi, je pense que le donner à Jordan Staal un peu pour, comme tu l'as dit, l'ensemble de l'œuvre. Vétéran, c'est le joueur le plus vieux à mettre la main sur le Conn Smythe dans l'histoire de ce trophée-là. Donc, non, une autre belle histoire là, pour les Hurricanes.
Mais, je suis d'accord avec vous deux. Puis, tu sais, je suis d'accord avec ce que tu dis, Alex, aussi. Je trouve intéressant l'idée qu'on y aille avec l'ensemble de l'œuvre, qu'on se pose des questions aussi à comment cet homme-là interagit dans le vestiaire avec les coéquipiers, comment ça a été le bras droit de Brind'Amour pendant
vraiment
tout ce parcours-là, le concept d'équipe, plus que d'y aller avec des statistiques sur papier, parce que c'est sûr que, tu sais, dans le classement des points, j'entendais Max un peu plus tôt, puis tu sais, je pense qu'il fait même pas le top 20 des pointeurs pendant les séries éliminatoires, mais est-ce qu'on est rendu là, peut-être, dans le sport, de se dire, justement, que un gars comme Suzuki, qu'on a ici à Québec, à Montréal, performe très, très bien, mais ce dont on entend le plus parler, c'est son leadership dans le vestiaire. C'est le fait qu'il est capable de tenir ce noyau-là ensemble et va travailler en collaboration avec Saint-Louis. Fait que moi, je trouve que c'était bien mérité hier. L'histoire, encore là, tu parlais d'histoire dans le sport, l'histoire derrière tout ça, Brind'Amour, qui a remporté la Coupe il y a 20 ans avec le même jersey sur le dos, avec son capitaine qui a tout donné à côté de lui aussi, qui y a cru.
Les deux se braillent dans les bras.
Je trouve que c'était beau.
Mais
c'était
vraiment
un beau moment de sport.
C'était écœurant. Parlant de beau moment de sport, c'est ce but du Canada en soccer vendredi pour donner un match nul de 1-1 contre la Bosnie. Le Qatar a surpris en ayant un match nul également contre la Suisse 1-1. Bref, la Coupe du monde a frappé le Canada, les États-Unis et le Mexique. Prochain match jeudi contre le Qatar pour le Canada. Alex, c'est vraiment excitant à regarder.
Ouais, ben tu sais, le match contre le Qatar va devenir drôlement important parce qu'on le sait, la Suisse, oui, a fait match nul contre le Qatar, mais c'est les favoris là, pour remporter le groupe, fait que ça risque d'être un match plus difficile. Mais moi, j'y restais avec un petit goût amer là, dans le match contre la Bosnie. Là, j'ai regardé ça, puis je trouvais qu'on avait vraiment l'ascendant sur ce match-là. On a raté plusieurs chances. Je me rappelle de Jonathan David en première mi-temps, une chance directement dans zone de réparation, puis un tir faible, facilement arrêté par le gardien de but. Je trouvais qu'on aurait dû remporter ce match-là. Je pense qu'on est une meilleure nation que la Bosnie, mais au moins d'aller tirer notre premier point dans l'histoire de la Coupe du monde, c'est déjà pas pire. Mais avec justement le match nul du Qatar contre la Suisse, ça ouvre peut-être la porte pour le Canada. Mais il faut dire aussi qu'il y a des meilleurs troisièmes hein, qui vont passer dans la ronde éliminatoire. Donc, à moins d'une catastrophe, là, on devrait avoir encore quelques matchs à se mettre sous la dent pour l'équipe canadienne.
Vraiment. Donc, prochain rendez-vous jeudi 18h contre le Qatar. Alex Aramé, toujours un bonheur de te parler. On se reparle cette semaine. Justement, la Coupe du monde bat son plein.
Ah oui, on se reparle peut-être avec un match nul là, de l'Espagne. C'est encore 0-0 contre le Cap-Vert.
Ben oui, encore 0-0. Espagne-Cap-Vert à la 90e minute. Ça serait une surprise exceptionnelle. Merci, Alex.
Salut, là.
Salut. Alex Aramé, à qui on parle régulièrement, chroniqueur sportif pour nous et également journaliste au 99.5 Montréal. Mentionner la victoire des Knicks aussi cette fin de semaine, 94-90. Bon, il y a eu du saccage dans les rues de New York après vrai. Mais quelle performance des Knicks de New York quand on parlait d'une performance exceptionnelle des Hurricanes de la Caroline à 3 défaites dans les séries. Ben c'est ça les Knicks aussi. C'est 16 victoires et 3 revers. Jalen Brunson qui a encore été fumant en finale avec 45 points. Fait que, Nate, si on complète notre histoire du tramway avant de nous laisser à Gravel dans le retour, on peut pas parler aux chiens de garde. On sait pas combien ça coûte. Puis eux autres, ils vont être responsables de surveiller le 7,6 milliards.
Là, c'est ça. Écoute, c'est le seul petit bout d'information que j'ai pas. Puis je veux pas, jeter la pierre à qui que ce soit. Là, c'est pas ça l'objectif. Mais c'est juste que j'ai fait des demandes d'entrevue ce matin. On m'a dit on n'accorde pas d'entrevue. Voici la ligne de communication. Je peux vous envoyer ça par courriel. Il n'y a pas de souci. Ce que j'ai reçu, c'est le courriel suivant. Le consortium Certitram est composé de Certifères Canada, appuyé par EXP et
Transamo, pardon, Canada, avec la collaboration de Jodoin Lamar Pratt, architecte, et de Socanin. Il agira comme certificateur indépendant du projet Tramcité. Tout au long du projet, son rôle sera de vérifier que les travaux et les systèmes sont conformes au processus établi et respectent les exigences techniques, contractuelles, ainsi que les échéanciers et les budgets. Certitram a été sélectionné au mois de mai au terme d'un processus d'approvisionnement rigoureux au cours duquel 5 propositions ont été présentées. L'appel d'expression d'intérêt, étape préalable, avait permis de qualifier 21 entreprises. Là, ce qu'on peut lire sous la plume de... Attends un petit peu, j'avais l'article ici. Sous la plume de M. Moala, du côté du Journal de Québec, c'est que le coût du contrat est inclus dans le budget global de 7,6 milliards de dollars du tramway, mais tout comme c'était le cas lors de la sélection des 2 consortiums privilégiés pour le contrat civil et contrat système, les montants précis ne sont pas rendus publics à ce stade-ci du processus. Au-delà du montant, c'était plus d'avoir des explications plus en profondeur sur
exactement.
C'est quoi exactement le mandat de ce consortium-là. Il y a plusieurs entreprises, puis je comprends que ça prend un parti ou des partis externes qui vont s'assurer que le projet va être bien fait, va être bien mené, qu'on va respecter les échéances, que tout va être conforme. Mais là, pour l'instant, la nouvelle est sortie, mais on n'a pas plus de détails à vous donner parce qu'on a refusé les demandes d'entrevue, puis on m'a juste répondu « on n'accorde pas d'entrevue pour ça
ouais, ».
Quand
non,
j'ai demandé ça. Pourquoi, je n'ai pas eu de réponse.
Ça fait pas de sens, l'opacité dans le dossier du tramway. Le retour de Gravel suit à l'instant même. Nous, on se parle demain, hein?
À demain!
Salut, merci pour tout!
Ciao!